parce que je pense que quand tu poses la question de direction en termes qui livrent, et ça reste aussi le fait d'ailleurs de savoir est-ce que les gens font les choses parce qu'ils y croient ou est-ce que les gens font les choses parce qu'ils sont obligés. Ils continuent à y croire parce qu'effectivement, de temps en temps ils sont obligés voilà. Et que le truc est stable et donc c'est la dernière année. On peut pas toujours se poser quoi, des choses qu'on s'y fait.
Mais je pense que c'est un des ce type de questions au moins globales sur les archives, moi j'aimerais bien en discuter avec des gens qui connaissent vraiment la théorie des jeux pour voir ce qu'on peut faire ouais, pour aller plus loin que ce qu'il y a quand même pas mal d'infos et effectivement une des questions c'est ouais il n'y a pas tant de procès que ça et les gens n'y vont pas forcément, mais savoir qu'il y a l'horizon d'un procès possible, ça fait évidemment évoluer les comportements avant, et savoir ce que ça peut coûter de différentes façons d'y aller et des éléments de ce problème-là et ainsi de suite quoi. Je voulais juste dire ouais sur la comparaison avec les avances de crédit et tout, c'est une question vraiment intéressante, même si je sais pas si on peut avoir plus que des éléments indirects pour y répondre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les faillites sont rendues publiques de plein de façons, plein de gens y réfléchissent, les journaux publient les mises en faillite, etc. Alors que le contentieux ordinaire, c'est pas public, puisque les séances sont publiques, j'imagine que dans une certaine mesure on peut obtenir les jugements, peut-être pas dans une plus grande mesure qu'aujourd'hui, donc pas beaucoup, mais ne serait-ce que par la simple masse en fait, savoir effectivement si quelqu'un a été condamné 50 fois pour un délit tant qu'il a pas fait faillite, c'est pas du tout évident, et donc c'est une des questions sur le fait que les juges ont des informations d'insider et probablement les arbitres et quelques personnes autour aussi qui peuvent être utiles pour une carrière. Alors je me pose toujours la question pour Paris, parce que vu la taille de la ville et la surface sociale des juges, de beaucoup des juges en tout cas, je sais pas s'ils y gagnent beaucoup vraiment pour leur propre entreprise d'avoir l'information sur ce qui passe au contentieux. En revanche, ce qui est possible, c'est qu'ils y gagnent le fait que leurs copains peuvent leur demander ce qu'il en est, et donc un levier d'échange, etc. Mais j'ai trouvé un peu de lettres au greffe, mais c'est très possible que par ailleurs ça n'ait pas été conservé, sur « Je suis à Marseille et dites-moi ce qu'il en est de monsieur machin à Paris, vous qui êtes au greffe du tribunal de commerce ». Pas autant que j'aurais pensé, mais c'est peut-être un problème de conservation, mais ça paraît logique que les gens aient fait ce type de démarche, en effet, soit d'écrire au greffe, soit d'écrire à quelqu'un qui connaît un juge, pour dire « Voilà, on m'a parlé de machin, est-ce que vous savez qu'il a eu beaucoup de procès, quoi ?» C'est compliqué le greffe. Bah, le greffe, de toute façon, encore aujourd'hui, c'est la propriété personnelle du greffier, donc la notion de publicité privée est quelque chose de compliqué, mais oui, de toute façon, ce que j'ai trouvé, c'est de la correspondance conservée par le greffier au tribunal et après écrémée, etc., donc ça veut rien dire du tout, quoi. Enfin, c'est pas une preuve d'absence.
L'intéressant, c'est que quand
on s'approche
du commerce
et
des banques, d'ailleurs, il n'y a pas les
commerces,
il y a les voilà, l'analyse, c'est l'enquissement.
C'est pas le
contentieux de base.
Ouais, ouais.
Alors que c'est justement fait pour devenir les activités commerciales, et donc, quand tu cherches une info sur un commerçant, en fait, il manque une matriculation, savoir ce qu'il a eu comme instruction. Il n'y a aucune mention de ces contentieux-là, à part faillite, l'enquissement, liquidation judiciaire.
En fait, c'est un peu mon grand message sur les sources, c'est que c'est pas des sources qui sont très simples, mais il faut jamais oublier qu'il n'y a pas que les faillites, quoi. Parce que, bien sûr, les faillites, c'est important pour plein de raisons, mais en termes de masse de contentieux, c'est rien du tout. Et, qu'avant une faillite, il y a souvent plein d'impayés qui sont pas sur là, que après une faillite, il y a plein de gens qui attaquent les syndics pour plein de raisons, enfin. Et donc, si on veut faire une histoire économique de ça, c'est important de se plonger aussi dans ces trucs-là. Et ouais, donc sur les questions de l'accès au droit et de droit qui n'est pas que dans les procès, je suis 100% d'accord. En fait, même si dans 10 ans, j'aimerais bien travailler sur ça, pas sur le droit dans les pratiques commerciales ordinaires, en fait, et pas seulement envisagé à partir des archives judiciaires, même si c'est compliqué d'inventer les sources. Mais évidemment, la question de la fréquence du contentieux, à mon avis, c'est moins intéressant en elle-même que se dire, bon, du coup, est-ce que les gens peuvent penser crédiblement que leur créancier va les poursuivre pour un billet de 200 francs par exemple, et ça paraît pas impossible, même si c'est loin d'être tous les billets qui donnent lieu, tous les biens impayés ne donnent pas lieu à ces poursuites probablement, mais voilà, je sais pas, en voyant les chiffres et le type de personnes, la diversité sociale et tout, ça paraît plausible que ce soit une menace crédible d'envoyer les huissiers du tribunal de commerce, quoi.
Je dis que la contrefaçon est demandée par 80% des demandeurs et obtenue dans la quasi-totalité de ces cas. En fait, je me demande si c'est ça, de 80%, c'est 80% des demandeurs qui peuvent demander les conférences à court, mm-hmm. parce qu'après la loi de 17 avril 1832, je pense que le montant de la dette commerciale était 200, donc pour une somme au-dessus de ça, on ne peut pas demander le conférence mm-hmm. à court. Les conférences à court est en fait, je pense, pour toute dette commerciale.
Mm-hmm.
Au-delà de...
Ah, oui. Je pense que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que les 80%, c'est ceux qui sont... Enfin, les 20%, en fait, où on ne demande pas, c'est soit moins de 200, mais ce qui est quand même rare.
Ou de marche,
peut-être. Ou pas commerçant, oui. Parce qu'il y a quand même pas mal de cas de non-commerçants qui sont invités.
Ah, oui, c'est bien.
Voilà.
Tout ce qui
en
droit le demande,
ouais,
en fait.
C'est
parti,
voilà.
C'est la raison.
C'est la... C'est dire, c'est pas une option, ça leur paraît logique, ça fait partie du procès, ouais. Je pense que c'est, ça paraît être ça. Enfin, c'est pas totalement sûr en lisant les sources directement, mais par déduction, ça paraît être ça, ouais. Bon, après, ça, c'est des chiffres qui sont sur mon échantillon, qui est tout pourri, qui est pas vraiment représentatif, qui est tout ça, mais bon, comme, ouais, mais... Enfin, c'est-à-dire que quand on a plusieurs échantillons tout pourris qui donnent le même chiffre tout au long du siècle et que c'est 100%, on peut dire que bon, sur celui-là, on va pas trop argoter. Après, sur d'autres, c'est plus compliqué de faire en mesure. Voilà.
C'est une opinion
sur le cas. Le principe, c'est que c'est pas possible de faire un... Enfin, d'une part, c'est pas possible de faire un échantillon aléatoire pour des raisons de la façon dont les sources sont conservées, d'autant qu'elles sont en banlieue. Et d'autre part, même si c'était possible...